cours la semaine dernière qu'on a fait, on a commencé un cours sur un terme, je pense, qui est très important, que toute personne qui a déjà étudié la Guémara est confrontée toujours à ce genre de questions. Je rappelle la question qu'on a posée. La question qu'on a posée, c'est que très souvent, quand on étudie la Guémara ou même la Halakha, des fois, on parle de cas qui sont des cas qui ne vont jamais arriver. C'était ça le thème de la question. Donc la question, je pense, elle était claire la semaine dernière. Après, quand on arrive à la réponse, j'ai senti que vers la fin, il faut repasser un petit peu. D'accord, c'est comme ça. Donc la question était très claire. La question était, il y a beaucoup de halakhot qu'on étudie dans la Gemara, des halakhot qui ne vont jamais, a priori, nous concerner. Et on a donné des exemples, on a donné pas mal d'exemples. On avait donné les cas, vous rappelez, avec les vaches qui passaient en dessous de la barrière, et que bon, on avait montré plein de cas, que je ne vais pas revenir dans ces cas, mais c'était des cas qui, a priori, étaient pratiquement impossibles. Bien des cas, le Cohen qui se trompait avec la Kavana, enfin, des cas, voilà, des cas qui ne sont jamais arrivés. Alors, je dis qu'il y a des cas qui sont arrivés, mais il y a énormément de cas qui sont traités, qui ne vont jamais arriver.
Très peu applicables.
D'accord, qui ne vont jamais arriver. C'est comme par exemple quand on étudie la Gemara. Quand on étudie la Gemara, alors quand je dis qu'ils vont jamais arriver, c'est pas qu'ils vont jamais arriver. Il y a des cas qui peuvent arriver. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Une fois, hein, vous savez, quand on étudie la Gemara, quand on parle par exemple des halakhot de mariage, de divorce, des fois, hein, on va expliquer un argument que la femme va donner. On dit oui, mais la femme, elle peut dire ça. Ah, on va donner un argument très puissant. D'accord? Elle peut dire ça. Oui, mais la femme, elle peut dire ça. Donc dans le mariage ou dans le divorce. Alors une fois, hein, il y a un élève qui a posé la question à Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, mais si une simple femme, comment tu veux qu'elle va trouver des questions comme ça, que les plus grosses têtes des maîtres de la Gemara ont trouvé, que nous-mêmes on pense pas, et que nous, écoutez bien, que nous, on se casse la tête pour comprendre qu'est-ce que les grands maîtres de la Gemara ont pensé dans la question. Il dit, mais attends, mais tu crois qu'une simple femme va poser ces questions? Et le Tzemar Tzedek a répondu comme ça. Il a dit que quand une personne se sent concernée, il est capable de trouver les plus grands arguments. C'est-à-dire, ça peut être même une simple femme qui, à l'époque, les femmes n'avaient pas l'habitude de réfléchir beaucoup comme aujourd'hui. À l'époque, les femmes étaient plus, comme ça, bon, elles, c'est la cuisine, etc., mais elles étudiaient pas beaucoup. Et ben, même une femme qui n'étudie pas, qui n'est pas versée dans la science, dès que ça la concerne et qu'elle sent qu'elle est en train de se faire avoir, elle va trouver les arguments qu'il nous faut les plus grosses têtes des maîtres de la Gemara pour essayer de comprendre la force et la puissance de l'argument de cette madame. Pour montrer quoi? Pour montrer que, dans la Gemara, il y a souvent des arguments qui nous ont l'air, a priori, complètement des déchets de la réalité qui n'arriveront jamais. Mais en vérité, ça arrivera. Mais ça change pas qu'il y a quand même une grande partie des cas qui n'arriveront jamais. Comme vous rappelez le cas que je vous ai donné la semaine dernière, le cas de Ben Sorer ou Moré, le cas du fils rebelle. Vous rappelez le cas du fils rebelle?
Le fils glouton. Ouais.
Celui qui est glouton, celui qui mange, d'accord, 10 kilos de viande en un jour.
Et qui boit.
D'accord? Et qui boit, je sais pas combien de dizaines de litres de vin en un jour, etc. Alors on dit celui-là, il sera mis à mort. La Gemara, elle dit clairement, elle dit que c'est un cas qui n'est jamais arrivé et qui ne peut jamais arriver.
Oui, mais alors, ça nous met en garde.
Oui, mais j'ai compris, mais alors, dans ce cas-là, ça sert à rien de faire un code civil, de faire un code de loi, si c'est des cas qui vont jamais arriver. D'accord? C'est déjà assez compliqué comme ça, on va pas rajouter avec des cas qui vont jamais arriver. D'accord? Donc la question qu'on a posée la semaine dernière, c'était comment ça se fait que dans la Halakha et surtout dans la Gemara, il y a tellement de cas, des cas qui a priori vont jamais arriver. Et c'est là qu'on a commencé à expliquer la réponse. On a dit comme ça. On a dit que quand on étudie, il y a deux choses. Il y a d'abord, j'étudie une Halakha. Une Halakha qui va être mise en pratique. Par exemple, je vais étudier la Halakha de Shabbat. Donc quand je vais étudier la Halakha de Shabbat, ben, ça va être mise en pratique dans le sens que voilà, Shabbat prochain, je vais savoir par exemple, est-ce que j'ai le droit de trier, est-ce que j'ai le droit de, comment je vais préparer à manger, comment je peux demander à un goy si j'ai besoin. Il y a la Halakha concrète. Ça c'est une Halakha qui est concrète. Ça c'est la première raison pour laquelle on étudie. J'étudie parce que je veux savoir concrètement ce que je vais faire. Mais il a expliqué un deuxième point, et c'est là je pense qu'on a buté un petit peu, qu'on va repasser dessus aujourd'hui. Il dit que quand on étudie, il y a un deuxième point qui s'appelle le concept. Qu'un concept, c'est pas obligé que le concept se traduise matériellement. Que matériellement, on a traduit le concept que voilà, ça s'est passé physiquement. Non. Le fait même d'étudier une idée, c'est un concept. Et le concept existe. Et je vais vous donner une image qu'il avait donnée pour nous montrer qu'en vérité, même si on peut pas l'appliquer matériellement, mais le concept existe.
C'est le concept, le principe.
Alors, justement, le concept, je vais expliquer, avec l'exemple que je vais donner, tu vas tout de suite comprendre. On dit par exemple que lorsque Avraham Avinu a accueilli les anges, qui sont venus lui annoncer que Sarah allait tomber enceinte à 90 ans. D'accord? On nous raconte que c'était le jour de Pessah. Et qu'Avraham Avinu, à ses invités, il leur a servi des matzot. Et nous, on plonge.
Comment il peut servir des
matzot? Et nous, on plonge.
Il a commencé déjà.
Il leur a servi des matzot. Ah oui, c'est des matzot. Mais c'est quoi Pessah? Pessah, c'est quoi? C'est la célébration de la sortie d'Égypte. On n'est même pas rentré en Égypte pour y sortir. Alors, quel rapport les matzot dedans? On a plongé, tu vois. Donc on se dit, mais attends, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. C'est un mitrash, Rachid dit clairement. Rachid, on a servi des matzot. Ah oui, matzot. Quel matzot?
C'est écrit même dans la Torah.
Oui, c'est écrit. La Torah dit pas clairement, c'est une allusion. Oui, mais la Torah dit pas que c'était lié à Pessah. Rachid, non, Rachid dit clairement. Rachid dit que ce soir-là, c'était le soir du Seder. Eh, vas-y, le CDR, merci. On n'est même pas rentré en Égypte pour y sortir.
Attends, juste une seconde. Ah oui. Les matzot, maintenant, ça a une connotation qui est strictement liée à Pessah. Mais avant... Est-ce que, par exemple, c'est pas un mets qui existe et qui a été fait, une recette qui est non levée, alors, qui fait
Rachid, non, non Rachid nous fait remarquer que non. Parce que Rachid nous dit qu'on voit, qu'au début, quand il a reçu les anges au début, il a demandé à sa femme de préparer du pain.
Oui.
Lechem.
D'accord, mais il aurait dit, empresse-toi.
Non, il a dit lechem. Il a dit, va chercher de la viande et prépare du lechem, du pain. Ensuite, on nous raconte qu'il a ramené des matzot. Donc Rachid pose la question. Tu m'as commencé avec du pain et tu me dis des matzot. Pourquoi ça a changé?
Du pain non levé pour
qu'est-ce qu'il répond Rachid? Il dit que c'est des matzot qu'il aura fait parce que c'était le soir du CDR. Donc c'est là la question qu'on se pose, c'est Rachid, c'est pas n'importe qui. On se dit, mais attends, on n'est même pas rentré en Égypte pour y sortir, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il célèbre le CDR? C'est là que je réponds à ta question. Qu'en vérité, bien sûr qu'on peut pas célébrer le CDR dans le sens physique. Ça veut dire qu'on célèbre la libération et la sortie d'Égypte. Parce qu'on n'est pas rentré en Égypte, donc il n'y a pas de libération. Mais il y a un concept. Le concept existe. Depuis la création du monde, il y a un concept, le concept de la libération. Le concept qu'un soir, tu fêtes la liberté. Que je suis un homme libre, libre dans ma tête. Ça, c'est un concept que même si on n'a pas créé la fête de la liberté officiellement, parce qu'on n'est pas encore rentré en Égypte pour y sortir, donc on n'a pas encore créé cette fête, mais ça ne change pas que c'est un concept qui existe. Et c'est un concept que tu peux appliquer dans n'importe quelle génération. C'est-à-dire que toutes les mitzvot de la Torah, il y a toujours un concept derrière. Alors, en général, on va associer le concept à un acte ou à un événement spécifique. Comme dans ce cas-là, on va associer le concept de la liberté à l'événement de la libération d'Égypte. Pourquoi pas? Mais en vérité, le concept existait depuis toujours. La force des patriarches, quand on dit que les patriarches ont accompli toute la Torah avant, c'est que la force des patriarches, c'est que eux ont réussi à capter des informations dans le ciel. Et ils ont réussi donc à savoir que dans plusieurs générations, on allait créer autour de l'événement de la liberté, le concept de la liberté. Je dis, le concept de la liberté, mais ça m'intéresse, je prends maintenant.
Et là, dans ce cas-là, quel est le rapport?
Donc le rapport est très simple. Le rapport, c'est que Avraham Avinu, bien qu'il était libre et qu'il n'a pas de problème de liberté, mais le fait de fêter la liberté et de célébrer un jour dans lequel on va penser à notre liberté, penser au fait que la vraie liberté d'un juif, c'est quand il n'est pas esclave de la vie, c'est quand il n'est pas esclave des plaisirs de ce monde-ci, c'est quand il n'est pas esclave de son yetzer hara, et que finalement, il fait ce qu'il a vraiment envie de faire. Hein, comme les gens ils disent par exemple, ils disent, le Shabbat, je suis esclave, je ne peux pas fumer. Tu dis, non, au contraire, c'est là que tu es libre. Parce que si tu fumes le Shabbat, tu es esclave de ta cigarette. Vous connaissez, ouais. c'est une image qui est connue, ouais. etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a accroché quand on parle de la fête de Pessah? C'est pas la fête de Pessah, la libération d'Égypte, on n'est pas rentré en Égypte. Ce qu'il a accroché, le concept de la liberté. Donc en d'autres termes, je reprends. Dans chaque mitzvah, il y a le côté pratique de la mitzvah. Bon, ça c'est le côté halakhique, d'accord? Le côté pratique, c'est voilà, on parle de Pessah, des matzot, la libération, la sortie d'Égypte, c'est très cadré. Et il y a le concept de la mitzvah. Le concept de la mitzvah, qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah? Et c'est deux choses qui sont complètement séparées, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça veut dire que je peux faire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Comme Avraham Avinu, il a fait le concept sans la mitzvah. Nous, d'un autre côté, ça peut nous arriver de faire la mitzvah sans le concept. J'ai mangé la matzah, est-ce que j'ai pensé que c'est pour la liberté, etc.? Peut-être pas. C'est deux concepts qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Quand tu les fais les deux en même temps, Baruch HaShem, c'est très bien. Pourquoi c'est très important d'expliquer ça? Parce qu'il veut expliquer avec ça que quand on étudie des halakhot, même si c'est des choses que concrètement on n'appliquera jamais, il y a des cas qu'on n'appliquera jamais, pratiquement on n'appliquera jamais, mais dans le concept, c'est un concept qui est toujours intéressant à étudier. Parce que le concept est un concept qui est intéressant. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du Ben Sorer Umoré, de cette personne-là qui est glouton. Ce jeune homme qui a 13 ans et qui est glouton, on a dit qu'il mange beaucoup de viande et qu'il boit beaucoup de vin. D'accord, anormalement, et que justement la Torah elle dit, celui-là, il finira par faire beaucoup d'avérantes. Même si techniquement, pratiquement, ça va jamais se passer. Moi, quand j'entends ça, je dis, attends, mais quel est le concept que la Torah va me faire passer par ici? C'est quoi le concept? Qu'est-ce que vous retenez?
Celui qui profite trop de ce,
voilà.
De ce monde.
Celui qui va faire des... Exactement. Que celui qui profite. Il faut profiter de ce monde. La Torah nous a chez nous, c'est pas interdit de profiter de ce monde. D'accord? Ça veut dire de manger de la viande, de boire du vin. Au contraire, la fête, il faut manger du vin. Il faut manger de la viande, il faut boire du vin. Mais, avec des limites.
Voilà.
Quand tu en abuses trop et que du coup on s'adonne à la gloutonnerie, et ben du coup ça peut tuer quelqu'un. Alors on ne va pas appliquer la halakha de Ben Sorer Umoré, mais le concept on l'a compris. Ça veut dire que le fait même d'étudier le concept, ça rentre dans ma tête. C'est ce qu'il veut expliquer ici. Tu dis, il y a beaucoup d'alachot que le concept, que le côté pratique, tu ne le feras pas, mais le concept, il va rentrer dans ta tête. Alors, vous savez où on retrouve ça beaucoup? Dans l'alachot de Shabbat. Bon, une des alachot que je vois qui a beaucoup de résistance quand j'enseigne, c'est quand j'enseigne l'alachot de Shabbat. Parce que dans l'alachot de Shabbat, il y a beaucoup de cas et de sous-cas et de détails, etc. Des fois, t'as des gens qui disent, bon, ça va, on fait Shabbat, mais bon, ça va. Un peu plus.
Non, mais c'est que ça peut être décourageant.
Oui, tu le bonhomme, tu dis, tu vois la salade, tu la coupes. Attention, comment tu la coupes? Comment tu la coupes? Petit morceau. Tu la coupes verticale, horizontale. Non, mais c'est vrai qu'est-ce que je vous dis. Verticale, horizontale. Tu l'as saisonné. Attention, quand tu l'as saisonné?
Avant, après.
Avant le repas, juste avant, une demi-heure avant. Ah, attention. Mais tu vas manger quand? Tu vas manger en combien de temps? Et vraiment, il y a de la route. T'as de quoi t'en foutre tout le temps. Tu dis, mais attends. Tu dis, mais attends, je veux une salade. Moi, j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que je veux? Je veux une salade tomate concombre. C'est en train de me rendre fou pour une salade. Ça veut dire que, des fois, on peut se dire que le côté pratique, des fois, peut nous rendre fou. Et surtout, des fois, elle parle de cas qu'ils vont peut-être jamais nous concerner. En tout cas, nous, on pense jamais être concernés par ça. La réponse est la suivante. C'est que même si moi, je ne vais pas être concerné par ça techniquement, mais dans le concept, c'est toujours intéressant à étudier parce qu'il faut essayer de quand j'étudie une halakha, de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Quel est le concept qui se cache derrière. Et quand on cherche, on trouve. Par exemple.
C'est être attentif.
Très attentif. Un autre exemple. Vous savez, il y a souvent des mitzvot qui choquent, mais quand on voit le concept qu'il y a derrière, eh ben, on accepte. Prenons une mitzvah qui choque beaucoup aussi. Le korban. C'est quoi le korban? Sacrifice. On prend un animal, on le tue, et on dit, ah voilà, c'est le sacrifice. Ça choque. Pourquoi ça choque? Parce que ça a l'air, ça a l'air archaïque, ça a l'air. Franchement, on a du mal à comprendre que quand ma chère viendra, on va recommencer avec ça.
On va recommencer avec ça.
Ah oui?
Ah bon?
On dit, mais attends, c'est une boucherie, je sais pas, c'est. Non, mais c'est choquant, non, honnêtement. C'est choquant. On se voit mal en 2014 maintenant arriver avec les sacrifices et le côté. Hop, allez, prochain, hop, allez à la shrita, le sang partout, etc.
C'est un professeur qui vient nous dire, non?
Non, c'est vrai?
T'as dit en 2014.
Ah non.
Ouais. Ah, mais on espère toujours.
Bah oui.
En 2013, pas en 2014. Alors,
quand il n'y aura plus d'iPhone, plus de voiture, je dis.
On a du mal. Non, j'ai pas dit ça.
Il y aura du iPhone même.
Application Petamikdash. Tu commandes ton.
Il y a une application pour ça.
Il y a une appli pour ça. Exactement. Compatible iOS, Android, Windows, tout. Même BlackBerry.
La technologie existe toujours.
Bien sûr. Au contraire.
Rien qui change.
Au contraire, la technologie. Tu n'étais pas là quand on a fait un noir. La technologie est au service de la Torah. Oui, Dieu nous prépare. Oui. Le chaim. Allez, on va dire le chaim. Amen. Je reprends. Le côté technique du corban peut être choquant. C'est choquant. On prend un animal, ou bien on fait des omelettes. Bah, du coup, tu vois, une omelette. Oui, il y avait des omelettes aussi. Oui.
Avec des œufs des poutins.
D'accord. Une omelette, ou bien tu prends un pigeon. Tu fais la. Bon, je veux dire, ça me dérange pas, mais. On a du mal à se sentir
à comprendre,
d'accord. Par contre, quand on va essayer de comprendre maintenant le concept du corban, allez, Rabat, on va se concentrer parce que c'est, vraiment, c'est, vous allez voir, c'est des choses.
Les omelettes, c'était pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens.
Oui. On a du mal à se, comment on appelle ça, à se sentir concerné par ça. Mais attends, une omelette, des oiseaux, un animal, quoi, faire la shrita, c'est pas pour moi. Par contre, quand on rentre dans le sens profond des mots, et qu'on va chercher le concept de la mitzvah. C'est quoi le concept d'un korban? Dans le mot korban, il y a le mot karov. Karov qui veut dire quoi? Qui veut dire je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, le message, comme dit le Ramban, le message que je me dis quand j'offre un korban, c'est que normalement, c'est pas l'animal qui aurait dû mourir, c'est moi qui aurais dû mourir. Seulement Dieu, il dit, j'ai un chesed avec toi, on fait passer l'animal à ta place. C'est un chesed de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est moi qui aurais dû mourir à cause de ma véronne.
Mais si on fait plus de faute après,
quoi?
Akadosh Baruch Hu, il a besoin de passer par quelque chose d'un acte matériel.
Non, Dieu n'a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin. C'est pas Dieu qui a besoin, c'est nous qui avons besoin. C'est moi qui a besoin. C'est moi qui a besoin de voir ça. Pas seulement ça. Le concept du korban, c'est quoi? C'est le concept du sacrifice. C'est pour ça que quand par exemple on fait un jeûne c'est comme un korban. Parce que quand je jeûne, le fait de ne pas manger, je sacrifie de ma chair. Je sacrifie de ma peau, je sacrifie de ma graisse. Je suis en train de sacrifier, mais je vais maigrir, je sacrifie de ma graisse. Donc dès qu'on rentre dans le concept de la mitzvah, tout de suite, ça prend une dimension qui est new age, tu vois, dire, ah oui, c'est bien, ça marche bien, ça, oui, c'est vrai, sacrifier à Dieu et savoir qu'il faut toujours laisser la place à Dieu, ça marche. Donc, encore une fois, on voit que des fois, il y a un décalage entre le côté technique et pratique de la mitzvah et le concept. Mais c'est vrai, il y a des gens qui accrochent plus le côté technique, il y a des gens qui accrochent plus le concept. Mais, l'un comme l'autre sont bons. Et au contraire, il faut apprendre à chercher l'un plus l'autre. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi j'explique ça? Pour dire que même s'il y a des fois des halakhot qu'on ne comprend pas, et que pas qu'on ne comprend pas, mais qui ne nous intéressent pas et qu'on se dit qu'on ne va jamais les faire, c'est pas grave. On te dit, même si techniquement tu ne vas jamais les faire, c'est pas grave. Étudie le concept, le fait même d'étudier le concept, le fait même que tu étudies le concept dans ta tête, c'est déjà quelque part une manière d'accomplir la mitzvah. Tu as accompli la mitzvah parce que tu as étudié le concept dans ta tête, c'est comme si c'est en train de se passer, c'est en train de se passer dans ta tête. D'accord? Donc c'est très important de rechercher le concept de la mitzvah. Et comme on avait terminé sur ça la semaine dernière, c'est juste le résumé de la semaine dernière, il a dit qu'en vérité, quelque part, quand on est en galoute, on a plus de chances que quand on est à l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, tu voulais offrir un korban. Il fallait te déplacer. Il fallait venir à Jérusalem. Il fallait payer. Ça coûtait de l'argent. Ça prenait du temps. Ça prenait de l'énergie, etc. Mais aujourd'hui, tu lis un texte, c'est comme si tu as fait le korban. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rabat sur le concept de la mitzvah. Comme on a, à défaut d'avoir le côté pratique de la mitzvah, on se rabat sur le concept de la mitzvah. Mais puisqu'on a le concept de la mitzvah, ben du coup on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus fort. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, voilà, cette semaine, je vais aller Bezrat Hashem chez le rabbi. Je vais vous montrer comment en vérité, quand on réfléchit, ce concept que je suis en train de vous expliquer, on le retrouve dans toute la vie. Je vais aller chez le rabbi. D'accord? Bon, on sait que ça fait 20 ans, pratiquement 20 ans, le 3 Tammuz, le corps du rabbi nous a quittés. D'accord? Il nous a quittés. Qu'est-ce qu'on te dit? Le Zohar te dit que quand un tzaddik part de ce monde, eh ben il est présent dans ce monde-ci, il attire mes bechayoui plus que de son vivant. C'est encore plus que de survivre, il est mort. Ouais. Non,
c'est son
d'accord. Oui, son enseignement. Voilà. Bon, je veux dire, il faut pas. Bon, il faut pas être dans le déni.
Voilà,
il s'est passé ce qui s'est passé.
Bah,
alors, pourquoi le Zohar il te dit à propos de Yaakov Avinu? Voilà, Yaakov Avinu, on va dans la parachute de semaine, il te dit Yaakov Avinu l'omet, il est pas mort. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, mais attends, on voit qu'on l'a enterré, on l'a embaumé. T'as déjà vu un vivant qui est embaumé? On l'a embaumé, oui. Qu'est-ce qui répond la Gemara? La Gemara dit non, tu sais. Comme sa descendance est en vie, alors lui aussi est en vie. Ah oui, mais ça c'est pour tout le monde, ça. Que si sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Quel est le message qu'il y a derrière? Le message qu'il y a derrière, c'est qu'encore une fois, quand nous on va voir un tzaddik, il y a le côté technique, il y a le côté pratique, et il y a le concept. Le côté technique, c'est quoi? C'est que je suis venu voir un tzaddik en chair et en os. J'ai fait un voyage à New York, j'ai vu un tzaddik en chair et en os, il m'a fait un sourire, il m'a fait comme ça, et je me rappelle qu'il m'a fait comme ça. Ça c'est le côté pratique. D'accord? Mais il y a un concept derrière. C'est quoi le concept? Le concept, c'est que quand je suis parti voir un tzaddik, ma neshama est en train de se lier à ce tzaddik. Seulement, d'accord, c'est-à-dire que ma neshama est en train de se lier à ce tzaddik, et ce tzaddik a un impact sur ma neshama qui va m'aider toute l'année à servir à Kadosh Baruch Hu mieux que ce que j'ai fait avant ce voyage-là. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que, à l'époque, quand on voyait de nos yeux le rabbi, quand on voit de nos yeux un tzaddik, on peut se perdre dans le côté pratique. Là, tu te perds, tu dis, ah, t'as vu, j'avais des milliers de personnes, il y avait des milliers de personnes, et alors? Et alors, il y avait des milliers de personnes. T'es venu pour voir des milliers de personnes? Ah, il y avait des milliers de personnes, et alors? T'es pas venu pour ça. T'es venu pour voir le rabbi. T'es venu pour essayer de prendre des brachot. Ah, il y avait des milliers de personnes. Il a fait comme ça. Il a bougé. Et alors? Ça veut dire que, très souvent, on peut se perdre dans le côté pratique. Et on peut oublier qu'il y a un concept derrière. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant qui est derrière. Que ça, c'est qu'une façade. Et quand le tzaddik part de ce monde et que donc, du coup, on n'a plus le côté pratique, il nous reste que le concept. Donc là, du coup, on va arriver à la profondeur des choses. Donc quelque part, on pourra atteindre des choses que jamais de son vivant on aurait pu atteindre. Pourquoi? Pas parce qu'on pouvait pas l'atteindre. Parce que on n'avait pas besoin de les atteindre. C'était pas nécessaire. On s'arrêtait au côté pratique et c'est tout. Ça veut dire comme ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui a ses arrière-grands-parents qui sont vivants. Il n'a pas besoin de réfléchir dans sa tête, de se dire quel est le message de mes grands-parents. Quel est le message? Je viens, je vais chez eux, je leur dis bonjour, je mange le plat de mon arrière-grand-mère et c'est fini. J'ai pas besoin de dire quel est son message, qu'est-ce qu'il m'a légué, quel est son héritage. À quel moment tu vas essayer de réfléchir quel est son message? C'est quand il n'est plus là. Quand il n'est plus là, tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'il m'a laissé?
Malheureusement.
Est-ce que ça veut dire que quand il était vivant, il t'a rien laissé? Non. Mais ça veut dire que quand il était vivant, je m'arrêtais plus sur le côté pratique. Mais quand on m'a enlevé ce côté pratique, donc du coup, je suis obligé de me rabattre sur le concept. D'accord?
Tout ça, c'est un... oui. Et là, on devient plus réceptif.
Ah bah oui. Là, du coup, c'est beaucoup plus puissant.
Plus attentif.
C'est beaucoup plus puissant. Ça rentre beaucoup plus en profondeur. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que quand tu restes dans le côté pratique, c'est rapide. Tu vois, je viens, je l'ai vu, tac, ça y est, c'est fini. Mais quand c'est un concept, tu dois réfléchir au concept et tu dois bien comprendre le concept, ça prend du temps. C'est plus compliqué.
Là, on n'y pense pas.
Exactement. On n'y pense même pas. On n'a pas besoin d'y penser. Donc là, on voit, vous voyez, dans cet exemple-là, on voit bien la différence qu'il y a entre le concept d'un côté et le côté pratique. Comment on voit que ils sont pas incompatibles, mais concrètement, dans la pratique, c'est les gens sont soit dans la pratique, soit dans le concept, pas dans les deux en même temps. On le voit dans toute la vie, ça. D'accord? Alors, Ah, c'est comme dans tout. Hein. Voilà, c'est comme par exemple quelque chose nous manque. Quand quelque chose nous manque, c'est quand il est pas là. Quand il est pas là, c'est là que tu réalises ce qui t'amène. Pourtant, quand il était tout le temps avec toi, bah, il était tout le temps avec toi, donc tu aurais dû réaliser encore plus. Non, parce que quand il est tout le temps là, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que ça représente pour moi. Donc il est là et c'est tout. C'est quand il n'est pas là que là je réfléchis ce qui ça représente pour moi. Donc le concept et le concept de côté pratique. Donc je reprends maintenant pour pas qu'on perde le fil. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est important d'étudier des halakhot, même si c'est des halakhot qui ne nous concernent pas? Réponse. Pour le concept. Parce que j'étudie un concept et le concept peut nous concerner à tous. Chaque personne peut essayer de chercher le concept qu'il y a derrière la mitzvah. D'accord? Je pense qu'il faut donner plusieurs exemples pour que ça rentre bien dans la tête. Parce que moi, pour préparer ce cours-là, j'ai essayé de réfléchir à plusieurs exemples. Regardez. Par exemple, je prends d'ici, voilà, ça je le prends tout à l'heure, David, hein, comme ça je le prends tout à l'heure. Je prends ici, j'ai devant moi un, comment tu appelles ça? Un mini sandwich. D'accord. Ce mini sandwich.
Il t'a repéré. C'était présenté comme ça.
C'était mini présenté sandwich. Comme
ça. Il se croyait à la boutique. Il m'a dit mini sandwich.
Mini par rapport. Alors, attends, je me parle à...
J'ai devant moi un mini sandwich. C'est un concept. D'accord? Ce mini sandwich. J'ai devant moi un mini sandwich. Ce mini sandwich, avant de le manger, je vais faire une bracha. D'accord? Je vais réciter un texte. T'as des gens qui peuvent être dérangés par ça. Pourquoi on récite un texte comme ça avant de manger? Ça peut les déranger. Parce qu'il dit, bon, c'est le côté pratique les dérange. Quand tu expliques le concept, c'est quoi le concept? C'est qu'avant de manger en vérité, tu dois te dire, si j'ai eu un mini sandwich qui est arrivé ici, il n'est pas venu tout seul.
Non.
D'accord?
Tu confirmes voilà.
C'est forcément avec quelqu'un qui l'a amené. Et ce monsieur qui l'a amené, forcément, ça veut dire qu'il a une parnassa par derrière. Et quand tu remontes au bout de la chaîne, à qui tu arrives?
Hachem.
Tu arrives à Hachem. Boré, miné, maisonote. Celui qui a créé la nourriture. Et donc, il faut être reconnaissant. Donc quand tu fais une bracha en vérité, c'est quoi le concept de la bracha? Bonsoir. Le concept de la reconnaissance. Vous voyez tout de suite, dès que j'explique le concept de la reconnaissance, là ça rentre dans la tête. Là, même celui qui n'aime pas dire des textes, il dit oui, qu'est-ce que... Bon, ça lui paraît un petit peu, je sais pas moi, chrétien ou un truc comme ça, tu vois, qu'avant de manger, bon, il dit un texte. Mais dès que tu l'expliques, tu dis écoute, c'est le concept de la reconnaissance. Il faut t'habituer à être reconnaissant dans ta vie. À reconnaître que si les choses ne sont arrivées, elles ne sont pas arrivées tout seules. Ça marche, ça rentre dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a très souvent... On bloque sur le côté pratique, mais dès qu'on analyse le concept de la chose, ça y est, ça passe mieux. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle c'est important d'étudier un maximum de halakhot pour se familiariser au maximum avec le concept de l'halakha. Alors. Dis maintenant.
Merci.
Ubazé Yuvan. Alors, je suis à la page, en fait, pas 319, voilà, Khazak. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser les questions. Pas de question? Est-ce qu'on repasse une couche ou c'est clair? D'accord. Michael, est-ce que c'est clair? Non,
hein?
Non, c'est pas ça va.
Ça va?
Attendez, vous êtes pas venu ici pour m'écouter parler.
Ah non,
ça c'est le côté pratique. Le concept, c'est que vous êtes venu ici pour comprendre.
Absolument.
C'est-à-dire, sortir ici, tu dois comprendre quelque chose. Si j'ai pas compris, ça veut dire que j'ai raté mon cours. Non mais c'est sérieux. Si vous sortez d'ici et que j'ai pas compris, ça veut dire que
non, mais, c'est
vous avez pas perdu votre temps, mais quelque part ça s'est pas passé comme il faut.
Il y a une vue en hauteur, il y a une vue.
Donc il y avait un concept de
ça. Tu remontes trois tours à l'arrière.
Non mais ça, si tu recules un peu, tu comprends qu'il y a un
concept. Il y a le
quoi que le sandwich des stands comme ça, il arrive.
Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai expliqué la semaine dernière?
Mais c'est là que tu te dis pourquoi
un concept derrière.
Ils ont enlevé avant les sacrifices.
Non, c'est justement ça la notion. C'est que le sacrifice, qu'est-ce qui nous dérange dans le sacrifice? C'est le côté pratique. Mais dès qu'on t'explique le concept qu'il y a derrière, la notion qu'une personne doit donner sa vie à Dieu, il doit se dédier à Dieu, et qu'il doit se dire qu'en vérité, ce qui arrive à l'animal aurait dû m'arriver à moi, là tu accroches. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est dans une génération dans laquelle on accroche plus le concept que le côté pratique. C'est comme ça, on est dans une génération comme ça. Et d'autres générations, à l'époque, ils étaient un peu plus simplistes. Et donc, ils accrochaient plus au côté concret. Mais les deux sont compatibles. Il nous faut les deux. Il faut les deux en même temps. Après, t'as un qui va plus s'accrocher sur le concept, et t'as un qui va plus s'accrocher sur le côté pratique. Il dit, bon, laisse-moi tranquille avec tes concepts. Bon, où est la viande? Allez, hop, amène la viande.
Moi, je sais que quand j'ai commencé à étudier la Gemara, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un concept. Parce que t'as une halakha qui est tranchée, mais quand tu étudies, tu comprends que tout le monde
Mais c'est comme dans tout, c'est comme dans tout. Regarde, même tu vas aller au restaurant.
Tu comprends qu'au bout du compte, il y a une halakha, mais tu comprends que derrière, il y a tout.
Oui, exactement. Tu vas aller au restaurant, par exemple. T'as des gens, ce qu'il leur faut, c'est le côté pratique. quand on mange, est-ce qu'on a bien mangé, est-ce qu'on est rassasié? D'accord? C'est le plus important. T'as d'autres personnes, le concept, quel plat, comment il a été servi, comment il a été présenté, quel goût il avait, est-ce que, quel arrière-goût il avait? Le concept.
Tu as un cas de figure qui semble un petit peu choquant pour celui qui l'aborde.
Oui.
C'est le fait de pas mélanger le lait et la viande.
Voilà. Ouais.
Concrètement, c'est vrai que ça peut, c'est difficile à comprendre.
Oui.
Mais quand tu as le concept de la chose derrière, le fait de pas mélanger ce qui est vivant avec ce qui est mort,
par exemple, ouais.
Là, ça devient un petit peu plus.
On a un concept, d'accord. Oui. Exactement.
Donc on a bien compris.
Mais de prime abord, c'est très difficile.
Dans chaque mitzvah, il y a un concept qui est derrière.
Le lait et la viande, la notion de ouais. Enfin,
c'est la notion du vivant et de mort. C'est la notion du chaud et du froid, d'accord. La viande, c'est la notion du chaud et du froid. C'est la notion du positif et du négatif. De manière générale, c'est la notion de vouloir mélanger des choses qui sont incompatibles.
D'accord.
Et le message qu'il y a derrière, c'est que Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on mélange des choses qui sont incompatibles, qui ne sont pas prévues pour être.
C'est la même chose pour les matières, genre le.
Chatness, bien sûr. Hein. Ouais. Il y a un concept qui est derrière. Chaque chose a un concept. Regardez, est-ce que vous vous rappelez par exemple ce que j'ai expliqué la semaine dernière? Qui se rappelle ce que j'ai expliqué la semaine dernière sur les tefilines? Quel est le concept des tefilines?
C'est l'attachement de l'âme et du corps.
La soumission.
D'accord.
Du cœur et du cerveau. Donc, encore une fois, c'est un concept. D'après le rabbi, il dit que dans notre génération, on est dans une génération dans laquelle on peut plus se suffire que de la pratique, il faut expliquer le concept. Vous savez, le rabbi, il insistait beaucoup.
Excuse-moi de te couper. La chose que j'ai pas compris, c'est le fait de dire que un tzaddik, quand il est parti, il est encore plus vivant que lorsqu'il est là.
Plus présent,
que lorsqu'il est présent physiquement dans ce monde. Et quand je te dis, c'est pas son enseignement, tu me dis, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Bah, ça peut pas être ça. C'est pas son enseignement.
L'enseignement n'est pas suffisant.
Très simple. C'est que la vraie vie d'un tzaddik, c'est quoi? C'est là encore une fois. Nous, quand on allait voir le tzaddik, est-ce qu'on allait pour voir son corps?
Non, c'est son enseignement.
Écoute-moi ma question. Quand on allait voir le tzaddik, est-ce qu'on allait pour voir son corps?
Un peu.
Tu allais pour voir son corps?
Non, pas du tout. Mais
c'est un acteur, il est là avec du maquillage.
Non, j'allais pour sa bouche.
Tu vas pas pour voir son corps. C'est pourquoi tu allais? Pour son esprit. D'accord? Si on t'explique maintenant que son esprit est encore plus présent qu'avant.
Non, pas du tout.
Je vais expliquer ce que je veux dire. Il est encore plus présent qu'avant parce qu'avant il était limité par un corps. Avant, son esprit était limité par un corps qui lui imposait à certaines heures de dormir, qui lui imposait certaines heures dans lesquelles il pouvait accueillir le public, certaines heures dans lesquelles il pouvait pas accueillir le public, donc il était limité. Exactement. Puisque nous avons la Emouna, que l'essentiel de Chantzadik, c'est l'esprit, puisque son esprit maintenant n'est plus bridé, il est donc limité, donc il est plus fort qu'avant. Seulement, pourquoi on a du mal à réfléchir comme ça? Parce que on a besoin, les hommes, on a besoin d'un autre côté d'avoir une relation avec un corps. T'as besoin de voir la personne. C'est pour ça qu'on fait un certain blocage. Mais en vérité, quand on réfléchit, le vrai concept, c'est quoi? C'est pas son corps. Le vrai concept, c'est son esprit. Et ben, son esprit est plus fort maintenant qu'avant. Seulement, c'est plus compliqué. Une fois que tu le vois pas de tes yeux, c'est plus compliqué de sentir qu'il est là. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Quand Dieu préserve un père, un proche, on te dit qu'il est encore plus présent après qu'avant. Mais on a du mal à le ressentir parce que nous sommes des hommes en chair et en os. D'accord? Ça veut dire que tout est en chair et en os. Quand tu touches quelqu'un, tu dois le toucher. Tu dois pas dire, non, mais on est là, les esprits se lient. Non, mais attends, non, tu veux le toucher, tu veux le voir, tu veux le sentir. Donc c'est plus compliqué.
L'esprit reste près du corps.
Juste deux secondes, je veux m'assurer que j'ai répondu à sa question. Est-ce que tu as compris ce que j'ai répondu? Quelle est la réponse?
Non, d'abord. Si tu réponds à sa question, peut-être que.
Tu n'as pas entendu sa question?
Peut-être que ça sera une partie de ma réponse.
Non, est-ce que j'ai répondu à sa question? Peut-être que j'ai mal compris ta question.
En fait, moi j'ai compris ce que tu es en train de me dire.
Mais il a du mal à prendre.
Mais j'ai du mal à.
À l'assimiler?
À l'accepter?
Non, pas forcément l'accepter, à me l'approprier, quoi.
Quand tu vas voir un tzaddik, tu vas voir pourquoi? Pour voir son corps, pour voir ses yeux, pour toucher sa main?
Rien à voir, je vais voir le tzaddik pour le.
Voilà, donc tu vas voir l'esprit du tzaddik. Si je t'explique maintenant que le corps du tzaddik bride l'esprit du tzaddik. Et que maintenant il est débridé. Donc. Ça veut dire que dans l'absolu, il est plus fort maintenant qu'avant. Mais je dis bien dans l'absolu, parce que concrètement, c'est difficile pour
nous. Je comprends qu'il est plus fort maintenant qu'avant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en quoi il est plus vivant qu'aujourd'hui? Plus vivant qu'avant,
parce que dans le sens que la vraie vie du tzaddik, c'était pas la vie physique, c'était la vie spirituelle. D'accord? Vas-y.
Et là, tu veux dire qu'il est que dans le spirituel, quoi.
Bien sûr, c'est évident.
Il est plus que.
Voilà. Ah, c'est évident. S'il y a une tombe, c'est.
Alors qu'avant, il était.
Mais l'esprit reste toujours près du corps?
Très bonne question. L'esprit,
c'est ça,
pourquoi aller à finalement
voilà, ça, voilà,
oui,
ça,
oui,
voilà.
Oui,
ça,
oui,
ça,
oui,
ça,
oui, Alors qu'on peut rester au Kremlin à 7 tranquillement.
Il a raison. D'accord. Alors, la réponse est très simple. La réponse. Khaïm, Khaïm. Ah, il a les réflexes, hein, il a les réflexes.
Khaïm.
Khaïm, Khaïm.
Je vois que le Yamazaki fait son effet. Ah,
non, il est chargé.
Pour voir si la question est bonne, pour voir la réponse d'abord.
Ah, oui, une chouquette.
La réponse est la suivante. C'est que quand on va chez. Quand la Neshama du Tzadik est présente dans le monde entier. Elle n'est pas limitée à un endroit spécifique. Mais il y a des endroits dans lequel la Neshama est plus présente. Dans le sens que quoi? Dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a 5 niveaux dans la Neshama. Dans notre Neshama, nous avons 5 niveaux. Le 5e niveau de la Neshama est un niveau qui est en action seulement à certains moments très spéciaux, comme le jour de Kippour, ou comme quand on va voir un tzaddik. D'accord? Ça veut dire que maintenant, si je veux me connecter avec le tzaddik ici, à la rue Poil à Enfer, d'accord? Enfin, à la rue Fernand Vidal, je veux me connecter avec le tzaddik, je peux me connecter. Mais ça va être une connexion de bas niveau. Par contre, quand tu vas voir dans le kever du tzaddik, étant donné que son corps est là-bas, donc sa neshama est plus présente, donc automatiquement, tu atteins le 5e niveau de la neshama. Du 0, enfin du 1, tu passes au 5e niveau de la neshama. Donc c'est pour ça qu'on sent une connexion qui est plus puissante, qui est plus forte. Est-ce que ça veut dire qu'ailleurs on ne pouvait pas se connecter avec lui? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est une connexion qui est plus puissante.
Donc finalement, c'est-à-dire que le corps est conservé, plus proche de la terre, c'est ça?
Parce que finalement, la réponse est très simple, c'est que finalement, nous sommes des âmes en chair et en os. Et au bout du compte, on a besoin d'une connexion physique. Donc c'est pour ça que quand on va devant la tombe, eh ben, étant donné que concrètement c'est l'endroit dans lequel le tzaddik est enterré, et donc son corps est là, et que nous les hommes, eh ben, quelque part, même si on veut pas l'admettre, mais on a besoin d'une connexion physique, eh ben, exactement, le problème il est chez nous, il est pas chez lui. Donc automatiquement dans un endroit comme ça, c'est là que notre neshama va arriver à se connecter plus facilement.
Le corps conserve une doucha.
Oui, mais encore une fois, c'est ce que la question de Michael. Le corps conserve une kedusha, mais on n'est pas parti pour voir son corps.
Non mais
on est parti pour voir son esprit, et son esprit, il est là partout, il n'est pas limité.
C'est pour ça.
C'est des questions très puissantes hein, que vous posez là.
C'est pour ça qu'on enterre. Le sens de l'enterrement, c'est de conserver quelque chose, pas de faire disparaître.
Oui.
Et si on voulait faire disparaître,
sinon on n'avait pas de problème, chose, on pourrait se connecter le facilement
directement
partout.
Dans la terre. Pourquoi ne pas le mettre dans un cercueil? Normalement, la halakha,
oui.
C'est que comment s'appelle, c'est que quelqu'un le prend.
Ah, c'est pour une autre raison ça.
Non, c'est parce que
Afaratav et Afartashuv, c'est écrit que Adam Arishon est né de la terre et on doit retourner vers la terre.
Ouais. Si on veut conserver une trace de son corps, parce qu'il faut être relié apparemment à son corps.
Mais le cercueil va se décomposer de toute façon. Le cercueil va se décomposer. Seulement, la décomposition sera plus lente.
C'est tout.
Elle sera plus lente. Le bois, il va se décomposer. Seulement, on va gagner quelques années, quoi.
Quelques dizaines.
Non, ça dépend de l'épaisseur, mais ça pourrit le bois. Il y a des, tu sais, les verres qu'il y a en bas avec les cordes dans les cimetières, c'est les verres qu'il y a en dessous. Bon, je vais pas vous faire. Je vous ai pas fini de manger.
Non, ça va. Ça se comprend. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autres modes d'inhumation.
On dit que les tzadikims ne sont pas touchés par la vermine.
Oui, c'est quand tu brûles, tu disparais.
Si on a un tzadik,
et que quelqu'un ouvre le tombeau.
Ah, mais c'est pas si, ça a déjà été fait plusieurs fois.
Comment on trouve le corps?
Mais on a déterré plusieurs tzadikims.
Rida,
tzadikim au Maroc, plusieurs tzadikim qui ont été déterrés,
et
ils étaient intacts.
Du Maroc d'un emplacement à un autre,
sans être embaumés.
Intact.
Avec la peau d'où?
Intact.
Non, pas la peau.
La peau, non, la peau, bien sûr qu'elle avait les ridées, etc., mais il n'y a pas de verre.
On a le droit d'embaumer.
Il avait ça.
Aujourd'hui, non, on n'embaume pas, non. Mais ça avait été imposé par la loi, par Paro. C'est Paro qui avait imposé ça.
Oui, parce que c'était un rituel égyptien.
Mais c'est une grande question. Est-ce qu'il a vraiment été embaumé? Est-ce que c'était seulement une impression? Est-ce que c'était bon? C'est une grande
Youssef,
question.
Youssef, il n'a pas été embaumé.
Youssef est embaumé.
Si, ils ont dit que oui.
C'est écrit qu'il est embaumé. Bah, Yachantou Oto, Youssef Maron, il a été embaumé et il a été mis dans un cercueil. Un cercueil,
le cercueil du transport, le
Non. Il a été.
Il
est resté. 200 ans. Non, mais il a été embaumé. Nous, dans la Lacha, on n'a pas le droit d'embaumer. On n'a pas le droit de toucher le corps, de laisser tel quel. Ok, bon, alors on continue. Ubaze Yuvan, avec ça on va comprendre. Donc je suis à la page 319. Oui, c'était obligatoire.
C'était des coutumes de l'époque.
C'était comme ça, c'était des pratiques funéraires.
319.
C'est des pratiques funéraires de l'époque.
La page après 78.
En Inde, il y a des pratiques, en Égypte, il y a des
pratiques. Aujourd'hui, c'était en mouvement.
Non, mais c'est une question compliquée parce qu'alachiquement, aujourd'hui, c'est interdit d'embaumer.
Non, nous, on ne peut pas.
Ah, c'est interdit.
Parce que de toute façon, ce n'était pas des rituels, entre guillemets, juifs ou hébreux.
Oui. Non, c'était pas
des rituels égyptiens.
Il n'y a pas encore la Torah.
Il n'y a pas d'alara,
alors. C'est pas qu'il n'y a pas d'alara, c'est que les patriarches s'efforçaient de faire les alachotes qu'ils connaissaient, qu'ils avaient apprises en haut. Mais bon, concrètement, il n'y avait pas d'alachotes, on n'a pas reçu la Torah.
Quand on parle de Mère Tamar, par exemple, et on dit, et Abraham a enterré Sarah. On parle d'enterrement, on parle pas d'embaumement, on parle pas d'autres rites.
Non.
C'était ce rite.
Ah, vraiment, intéressant Sarah tel quel. Ok, alors on continue.
Mais il y a peut-être qu'en Égypte qu'ils embaumaient. Hein.
Ou Zéyouban.
Ça coûtait très cher, donc dans toutes les autres
nations,
ils embaumaient pas. Ils avaient pas
on dit que c'était un art égyptien d'embaumer.
À part les Égyptiens riches, et à la limite, les autres.
On est en haut,
là. Ils n'étaient même pas embaumés.
Au milieu,
ils avaient coûté.
Septième ligne.
C'était les gens importants. Oui, les gens importants. C'est comment c'est quand t'as quelqu'un embaumé? C'est comment ça se passe?
Ils enlèvent les organes.
Ils le vident.
On le vide entièrement.
Comme un truc empaillé, quoi.
Ah oui? Ah, quand quelqu'un, quand il n'a pas empaillé.
Il le vide entièrement. Ah oui, c'est ça, on embaumé.
Tous les organes qui pourrissent,
on enlève tout.
Et remplacent par
comme les trucs empaillés, pareil.
Embaumé, c'était du parfum.
D'accord.
On mettait du parfum parce que comme on sait que le corps va pourrir avec le temps, donc c'est un parfum qui est tellement fort que pendant des années, ça va continuer à sentir bon.
Juste une parenthèse.
Oui.
En Sicile, il y a un musée de personnes momifiées.
Oui.
Et il y a une petite fille qui est décédée il y a...
Momifiée, c'est la vraie personne ?
Momifiée, oui.
Ah ouais.
Une personne qui est décédée au fin du 18e siècle. Tu la vois ? Elle est en apparence comme si elle était vivante. Ils avaient des techniques de momification.
À l'époque,
déjà. En Sicile, hein. C'est très impressionnant. Elle n'a pas bougé, il n'y a pas un truc qui est parti. Et ça fait 2 siècles.
Et comment ils l'ont conservée ? Avec la chaleur ?
Elle est conservée comme ça. Non, mais bon, enfin, là, pour l'expo, entre guillemets, elle est conservée, il y a un truc de verre, etc. Mais le corps, lui, n'a pas bougé.
Mais t'as pas vu l'Allemand, là, qui il est plastifié aussi ?
Il est plastifié.
Il joue avec le corps. T'as vu,
c'est des gens qui. Bon, allez, on y va. Ou bah Zeyouvan, avec ça on va comprendre. Donc, du coup, on a là. Il nous a fallu 40 minutes pour résumer la semaine dernière.
Oui. Il a fait une expo partout dans le monde. Il y a des pays qui n'ont pas accepté.
Allez, Rabotai, on y va. Ou bah Zeyouvan, avec ça on va comprendre. Riou, l'obligation. Kol Naran, chaque Neshama, les Hashlim, Kol Atariag, Marshava Dibur Maase. Bah avec ça, on va comprendre pourquoi chaque Neshama a l'obligation, au moins une fois au cours de ses réincarnations, de compléter, de faire toutes les mitzvot, Bemarshava, Dibur ou Maase, en pensée, en parole et en action. Comme on a expliqué. Ça veut dire que chacune des Neshamot doit passer au minimum une fois dans une des réincarnations. Donc nous sommes déjà après plusieurs dizaines de réincarnations.
Pourquoi nous
on est assistés à tous les sacrifices.
Parce que nous sommes les Neshamot avant Mashiach, et on est en train de récupérer les dernières choses qui n'ont pas été nettoyées. Ça veut dire que nous sommes, en général, on a eu plusieurs dizaines de réincarnations avant nous.
C'est-à-dire qu'on est déjà participé dans le passé.
Exactement. Ça veut dire que probablement, nos Neshamot ont déjà participé au moins une fois à pratiquement toutes les mitzvot en action, peut-être même en parole. Mais il y a certaines mitzvot dans lesquelles il manque, par exemple, la pensée. Parce que peut-être il y a certaines choses qu'on a fait à l'époque en action, mais pas en pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important d'étudier la Torah. Même des halakhot qui ne nous concernent pas et qu'on ne fera jamais, comme les halakhot des sacrifices, parce que c'est peut-être ça ce qui manque à Maneshama. Peut-être que Maneshama n'a jamais étudié ces halakhot. Elle les a déjà faites en action, elle en a déjà peut-être parlé, mais elle les a jamais étudiées dans la pensée. Le concept, on l'a jamais étudié. C'est pour ça que vous remarquez que plus on avance dans le temps, et plus on étudie les concepts. Ça veut dire qu'on
se...
Dans la pensée, ça veut dire se concentrer sur le concept de la mitzvah. Se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah? J'amène souvent cet exemple-là qu'à l'époque, dans le temps, les gens, ils faisaient les mitzvot, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils faisaient les mitzvot sans se poser de questions. Sans chercher le concept qu'il y a derrière. Sans chercher le sens de la mitzvah.
Ouais,
d'accord? Et il faisait parce qu'il fallait faire, point à la ligne, c'est tout. Et on voit clairement que plus on avance dans le temps, plus on, c'est le rabbi qui dit ça, plus on avance vers Mashiach, et plus on voit que les générations ont besoin de comprendre le concept des choses, le sens profond des choses. Et d'après le rabbi, il se base sur ce commentaire-là pour dire que c'est pas par hasard. C'est pas un hasard. Parce que, avant, le but était d'accomplir un maximum de mitzvot en action. Mais il faut dire qu'avec le nombre de réincarnations qu'il y a eu, les Neshamot sont déjà passés pratiquement au moins une fois par toutes les mitzvot en action. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à passer par ces mitzvot-là en pensée. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens, les jeunes, et plus on avance dans le temps, et plus on peut plus dire à quelqu'un, fais-le parce qu'il faut le faire. Ça marche plus aujourd'hui. C'est has-been, ça marche plus ça. À l'époque, on disait à un enfant, fais-le, il fallait le faire et c'est tout. Aujourd'hui, il faut expliquer. Aujourd'hui, t'es obligé d'expliquer, d'expliquer, bien sûr avec la soumission, mais il faut expliquer. Il faut expliquer le concept. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il faut passer par la machashava, par le concept. Et plus on avancera vers Mashiach, et plus on devra développer le concept de la mitzvah. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il veut expliquer ici. C'est que chaque neshama doit passer au moins une fois dans cette réincarnation par toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, dans la pensée, dans la parole et dans l'action.
Donc, il faut. Qu'on s'est nécessairement réincarné en juif, systématiquement?
C'est sûr, ça. 100%.
Un juif d'aujourd'hui?
Oui.
C'est un juif d'hier?
C'est sûr, oui.
Mais est-ce qu'un juif marocain, il peut se réincarner dans un juif tunisien? Sérieusement, Mendy, qu'advient-il d'une âme qui, elle, est passée par l'ensemble de ses états?
Elle redescend plus?
En général, c'est lorsqu'il progresse.
Regardez, je vais expliquer, c'est très simple. Ça, on l'avait étudié. Pour ceux qui étaient là, on l'avait étudié, ça fait 6 mois.
C'est lorsqu'il se perfectionne.
C'est très simple. Comment comprendre le concept du guéinom?
Vous, vous êtes à l'avant-dernière étape, en fait. Vous êtes en train.
Déjà pas.
Pour répondre. Hein.
C'est l'avant-dernière étape.
Qui a été grand en les...
Alors, c'est ce que je vais expliquer ça. Je vais m'arrêter sur ça. Rabotin, on va essayer de se concentrer. Regardez. Qu'est-ce qui se passe quand une Neshama arrive en haut? Quand une Neshama arrive en haut. Dans certains cas, on lui dit bon, tu t'es bien comporté, Baruch Hashem, Gan Eden. Dans d'autres cas, Geinom.
C'est complet.
D'accord? Et dans d'autres cas, on lui dit de redescendre. Pourquoi on lui dit de redescendre? Pourquoi on l'envoie pas au Geinom? S'il a fait d'Averot, on l'envoie au Geinom, qui l'aura purgé sa peine, oui. Qui va durer maximum un an et c'est fini. Pourquoi il doit redescendre sur Terre? D'après le Harizal, la raison pour laquelle une personne doit redescendre sur Terre, c'est pas pour réparer ce qu'il a fait. C'est parce qu'il n'est pas passé par, au moins une fois, par les 613 mitzvot en pensée, parole et action. Si la Neshama, d'accord, numéro de série, temps et temps, est déjà passé par les 613 mitzvot, pensée, parole, action, même si elle a fait beaucoup d'Averot, il y aura le Geinom pour ça.
Merci.
Elle n'a pas besoin de redescendre pour ça, deux secondes.
Le Rabbi.
Quoi le Rabbi?
Le Rabbi, tu peux dire qu'il y a une mitzvah qu'il n'a pas fait.
Il n'y a pas de réincarnation?
Ah,
il va au Gan Eden?
Non, c'est
il y a trois options quand on arrive en haut. Soit Gan Eden, s'il a déjà couvert toutes les options, il a déjà fait toutes les mitzvot. Soit Geinom, s'il a déjà fait toutes les mitzvot, mais il a fait des Averot aussi. D'accord? Soit redescendre, s'il n'est pas passé par toutes les mitzvot. C'est-à-dire, tu peux avoir un juif qui était kasher à 100%, qui a fait des super mitzvot, mais il n'est pas passé par toutes les mitzvot. On lui dit, écoute, c'est tout ce que tu as fait, c'est très beau, mais on va te renvoyer en bas pour compléter quelques mitzvot que tu n'as pas encore fait. C'est comme ça. Parce que chacun de nous doit passer au minimum une fois par les 613 mitzvot, en pensée, en parole et en action.
Et là, il est retenu. Et là, l'aneshama est retenue.
Une fois qu'il est passé, ça y est, c'est bon. On le garde.
Donc en fait, tant que toutes les neshamot ne sont pas passées par tous ces.
Ma chère pourra pas arriver.
Peut-être pas.
Mais
on a un compte.
C'est
des
compte. On est très proche.
Chaque fois qu'ils sont détendus, on retourne pas.
On est très proche parce que nous sommes des réincarnations qui sont venues pour peaufiner les derniers détails.
Des dates limites ont été.
C'est-à-dire qu'il reste que des babioles.
Des allu.
Ça nous a l'air gros, mais c'est des babioles qui restent.
Par rapport à ce qu'ils ont vécu les autres.
Bah oui, par rapport à ce qu'ils ont vécu, le chemin a déjà été fait. Là, maintenant, on est en train de revoir les petits derniers détails. Tu sais, c'est comme quand tu organises une soirée, ceux qui organisent pas mal de choses comme ça. Tu passes des mois à préparer, et après, t'as les petits préparatifs de dernière minute. C'est des préparatifs importants, mais ça y est, le plus gros est déjà prêt.
Mais excuse-moi, Mandy, c'est une histoire sans fin.
Pourquoi?
À moins qu'on parte tous d'un seul coup, parce que tout le monde a...
Pourquoi?
On a tous passé le...
On a tous fait les mitzvot.
Si on est là ici bas sur terre, si on est encore là ici bas sur terre, ça veut dire qu'on n'est pas encore passé par toutes les mitzvot.
Oui, d'accord, mais
si on parle, c'est comme
non, mais ça veut dire si que... tu es là maintenant à un cours de Tania, si maintenant ce soir peut-être tu as découvert un concept d'une mitzvah, c'est que probablement ta neshama n'a jamais compris ce concept de sa mitzvah dans toutes les réincarnations.
Donne un exemple, s'il en reste 5. Il reste 5 neshamot.
Oui.
Et on est, je sais pas, ça dure combien de millions
oui. Non, non, je répète. Chaque neshama, alors je compris la question. Qu'est-ce que vous lui avez donné ce soir? Vous venez la même chose.
Rien. C'est ça votre cas,
Rien.
Je réponds à sa question. Une neshama peut être fractionnée. Parce que des fois.
Oui, ce qu'il dit, non, mais
parce que des fois, quand tu as une neshama qui a une tâche qui est trop compliquée, pour augmenter les probabilités que la neshama va réussir, parce qu'on ne te dit pas quelle est ta mission. Donc, pour augmenter les probabilités, Dieu peut fractionner une neshama en plusieurs milliers de personnes.
À milliers, en
plusieurs milliers. Oui, ah, oui, ça peut être plusieurs milliers de personnes. Il peut être chaque il y a 600 000 neshamot, ouais. Et chacune de ces 600 000 neshamot peut être fractionnée en 600 000. Ça ne veut pas dire qu'elle est fractionnée en 600 000. Mais elle peut être fractionnée en 600 000. Faites l'addition, vous allez voir. C'est énorme.
Il y a beaucoup de frères et sœurs.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de la fractionner à 600 000, mais c'est les options qu'a Kadosh Baruch
Hu. Tunisiens.
Et je vais te compliquer encore un peu les choses. C'est qu'en en général, les gens avec lesquels on a des affinités, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on avait fait un cours sur ça, il y a des gens, des fois, avec lesquels on sent que ça passe bien, quoi.
Ça s'appelle une âme sœur.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est très probable qu'on vient de la même Neshama. Nous sommes deux fractions d'une même Neshama. Donc, comme on est deux fractions d'une même Neshama, donc on sent, sans même comprendre pourquoi, on sent que ça clique. D'autres personnes, tu sens que ça clique pas, parce que bon, c'est une autre Neshama. Tu comprends?
Ouais,
voilà. On peut comparer ça aussi à un arbre. Que dans l'arbre, tu as des branches principales. T'as par exemple des gens qui sont plus attirés vers un tzadik, d'autres vers un autre tzadik. D'accord? Le tzadik, c'est un chef de file. C'est une branche principale. Alors après, tu as des branches, t'as des sous-branches, t'as les sous-branches, d'accord? Donc c'est-à-dire, t'as des petits tzadikim, etc. Et plus tu descends vers le bas, et plus le tzadik est grand.
C'est le tronc.
D'accord? C'est le tronc.
Oui, d'accord.
Voilà. Et donc là, le tronc, tout le monde est obligé de passer par lui. Voilà. Bon. Alors on continue. Il y avait une autre question. Une question? J'ai entendu quelqu'un voulait poser une question.
J'ai toujours la tête.
Vas-y. Alors, la réponse que je vais te donner, c'est que ça peut être fractionné en plusieurs personnes.
Je suis d'accord avec toi.
Donc,
ça ne change pas la question.
Il n'y a aucune garantie.
Pourquoi ça ne change pas la question?
Je sais pas, peut-être je la formule mal. C'est-à-dire que.
Sûrement.
Je sais.
Il faut dire merci. Il faut dire merci pour le compliment. C'est écrit dans Pirkei Avot, Lo Abaychen Lamed. Celui qui est timide ne prend pas. Vas-y. Vas-y, pose la question.
Ça veut dire qu'il reste 5 Neshamot à qui il manque.
Il ne reste pas que 5.
Un exemple. Oui. Et on est 600 000 sur Terre.
Mais non. Encore une fois, si tu es là sur Terre, c'est que tu fais partie des Neshamot qui ont une mission encore à faire. Sinon, d'accord. Tu ne serais pas là.
Ça veut dire que la dernière mission pour la dernière.
Bien sûr. Parce que fin du temps. Avant, on était 600 000 pour régler 600 000 Neshamot. Maintenant, si on est 600 000 pour régler, je sais pas, 20 Neshamot, le taux de probabilité qu'on y arrive, il est très très fort, il est très puissant. Parce que, avec toute la masse des mitzvot, c'est démultiplié, donc c'est pratiquement sûr que c'est... Quand les années qui me disent on y est bientôt, c'est mathématique.
Ça veut dire que quand on aura terminé toutes les missions, on sera pas obligé de passer par la manche. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a l'air de dire que.
Moi, dans le BCC, ils ont très bien de qui ici, je peux faire ce que je veux, parce que les autres qui travaillent pour moi.
Sur la fin.
Moi, attends. Tu veux dire ta mission, toi
aussi. Les autres qui travaillent pour moi. Moi, je suis pas une échelle. Moi, je suis pas une seule échelle unique. Moi, il y en a d'autres qui travaillent. Je suis sur 60 000 échelles qui
travaillent. Voilà.
Je fais ce que je veux, moi, les autres.
Quand mon cher va venir, il va te régler les comptes.
Non, mais c'est bon, c'est pas
grave. Je pose la question. Oui, je peux me dire
c'est pas grave.
Oui, allez.
C'est parce que tu m'as dit.
Tu quoi?
À la fin de ta mission, tu auras même plus sous broker. Tu vivant?
Non, aussi raisonner comme ça.
Alors c'est pas grave. Non, doucement, non, pas ce que j'ai dit.
Non, mais je te jure.
Imaginons que maintenant il est 21h et 21h30, d'accord, 21 pratiquement 30. Imaginons qu'à 21h30 et 34 secondes, Dieu décide que ça y est, toutes les missions sont accomplies. D'accord. Alors, ceux qui sont vivants à ce moment-là restent vivants.
Voilà.
Ils ont besoin de passer par la mort.
C'est ça.
Mais si maintenant j'ai terminé ma mission à 20h30 et 34 secondes, moi j'ai terminé ma mission, mais que les missions du monde ne sont pas encore terminées.
D'accord.
Donc Dieu préserve, Monsieur Rouven partira de ce monde, d'accord, pour pas dire moi, il partira de ce monde, mais lui, il va partir, mais les autres sont là.
Il y a une mission à accomplir, on est compris, oui,
Au moment où Dieu décidera que toutes les missions auront été accomplies, mais on y est presque. Parce que mathématiquement parlant, plus on avance, et plus il y a une masse de personnes qui est en train de chercher quelques buts. Donc c'est, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas.
D'accord, donc il y a plusieurs personnes qui vont partir en même temps.
Tu sais quoi, je vais t'embrouiller les choses. Parce qu'aujourd'hui, tu m'embrouilles, je vais t'embrouiller. Je vais t'embrouiller, écoute-moi bien. Dieu, en cours de parcours, il peut te greffer une autre neshama.
Voilà, exactement, une autre mission.
T'as pas remarqué, des fois, dans ta vie, tu changes?
Tous les jours, on change.
Non, t'enlèves pas. Mais il te greffe une autre neshama. Parce que, quand par exemple, imaginons qu'il y a une neshama qui a du mal, tu vois. Il dit hop, allez hop, on va te greffer des particules d'une autre neshama pour l'aider à terminer sa mission. C'est extraordinaire. Il y a un calcul qui est mathématique qui est extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, on comprend que mathématiquement, on est proche.
Ça veut dire que tu peux supporter une deuxième mission.
Chacun de nous peut avoir plusieurs particules de plusieurs neshamas différentes.
En fonction de tes aptitudes.
En fonction de ce que le général décide. Le général, c'est Akadosh Baruch Hu.
Ça ressemble bizarrement à l'ADN, ça.
Oui, à 100%. 100%. Ah oui.
Plusieurs personnes,
Si l'ADN est physique, on peut pas rajouter des gènes.
Nous, on ne sait pas encore comment on peut rajouter.
On peut avoir.
D'abord, on peut rajouter la preuve. On ne sait pas comment le faire, mais la preuve, c'est que quand on va avoir un enfant, par exemple, d'accord, l'enfant, c'est ce qui est issu de l'ADN du père et de la mère. Donc, ça veut dire que A plus B peut créer C. Donc, le corps sait le faire, mais nous, on ne sait pas le reproduire sans le corps.
L'ADN, il est unique chez chacun.
Oui, mais ça veut dire que
ce qui veut dire, non,
on ne sait pas encore le créer avec des machines, mais ça arrivera.
C'est le séquencement des gènes.
Oui.
Ça arrivera, ça choque pas, ça arrivera, c'est pas un problème.
Pardon, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec le Téléthon, tout l'argent qu'ils ont ramassé, ils ont fait de la thérapie génique en essayant de recréer, mais ils savent faire des bouts.
Non, ils recréent pas.
On pourra créer des ADN sans passer par le corps. Aujourd'hui, il n'y a qu'un corps qui est capable.
Ils ont fait l'ARN
messager. Bon, allez, on continue. Bon, c'est pas le but, les gens. Allez, David, on avance ou pas? Allez, on y va. Alors, il dit maintenant, ou basé ou ban, avec ça, on va comprendre. Allez, Rabotai. C'est comme ça, on termine le Pérec.
Je ne ramène plus de boîte, on peut pas.
Non, lui, il faut que tu me sers la même chose.
Avec le bon avis. Tu peux rien créer.
On rince un coup.
Il est bon ce soir,
Ah, pas c'est toujours bon.
On n'a pas fini. Ah, mais là, ce soir, il a posé des questions.
Il est meilleur.
Tu prends son verre ou vous
Non, mais je fais peut-être à distance, je pense. J'ai
42 questions, je pense que.
Les sandwichs de la vie sont.
Ok, Rabotai. Ou bah, Zeyouvan, avec ça, on va comprendre Triouv. Kol Naran, avec ça, on va comprendre l'obligation. Kol Naran, de tous les Nefesh Roch Neshama, c'est-à-dire chaque Neshama a l'obligation. Les Hashlim Kol Atariag, de terminer, de compléter toutes les 613 mitzvot. Bemar Shava, Dibour ou Maasé. Beaucoup d'abréviations là. Donc en pensée, en parole et en action. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Chacun de nous doit compléter. Donc probablement que notre mission aujourd'hui, c'est de compléter quelques mitzvot en pensée, le concept. D'accord ? Chehen praté alachot. Que ça c'est quoi ? C'est les détails des alachot. C'est l'étude des détails des alachot. Alors, ou tsrichot lavo begilgul. Que la neshama devra redescendre dans un gilgul, dans une réincarnation. Les hashlim atora bepardes. Que de la même manière que chaque neshama devra compléter les 613 mitzvot en pensée, en parole et en action, de la même manière, chacune des neshamot devra étudier la Torah par les quatre méthodes d'étude de la Torah qui sont le pshat, le sens simple, le remez, le côté allusif, le drash, le côté midrashique et le sod. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sod, jusqu'à il y a 300 ans, il n'y a qu'une élite qui l'étudiait. C'est-à-dire que sur la masse des 600 000 neshamot, s'il y a 10% qui l'étudiaient, c'est des bouts du monde. Donc ça veut dire que jusqu'à il y a 300 ans, jusqu'à que le Baal Shem Tov a décidé que maintenant avec la Chassidoute, on va donner le Zohar, le Sod à tous, jusqu'au Baal Shem Tov, d'accord, il y avait 90% de neshamot qui n'étaient pas passés dans l'étude de la Torah, donc dans la pensée, par l'aspect Sod. Or, rappelez-vous, chacune des 600 000 neshamot doit passer par les 613 mitzvot en pensée, en parole et en action. Et dans la pensée, il doit passer par les quatre modes d'études qui sont le pshat, le sens simple, le remez, le côté allusif, le midrash, donc le côté midrashique et le sod. Les trois premiers aspects, on les a eus avant. Ça, on connaissait, même les gens simples, bon, ils savaient qu'il y avait le côté allusif, le côté midrashique et le côté simple. Mais le sod, on ne touchait pas. Donc ça veut dire qu'il y avait 90% du Ham Israël, ma chère, ne pouvait pas venir. Il y avait 90% du Ham Israël qui n'avait pas étudié le sod. Est venu le Baal Shem Tov, avec le développement de la chassidoute. D'accord, d'autres aussi, Il n'y a pas que Baal Shem Tov. D'accord, non, il n'y a pas que Baal Shem Tov. D'autres aussi, d'accord. Non, mais tu parles de rabbani marocain, d'accord. Mais le rabbani marocain, c'était une élite qui étudie le Zohar.
Oui.
Voilà.
Mais, donc, oui, tu as raison.
Donc c'est pour ça qu'il y a un problème. Et donc progressivement, plus on avance, et ça remarquez, c'est historique ça. Progressivement, plus on avance dans le temps, et plus on voit comment le sod, les choses qui étaient secrètes avant, c'est-à-dire qui étaient secrètes dans le sens que le concept profond, etc., oui, que les gens à l'époque ne se posaient pas la question, et ben aujourd'hui, c'est devenu à la portée de tous. Ça doit être à la portée de tous, parce que tant que toutes les 600 000 neshamot ne seront pas passées par les 613 mitzvot, par, dans les quatre aspects, et donc dans le quatrième aspect, c'est quoi? C'est sod. Étudier la Torah dans le sod, Majer ne pourra pas venir.
Mais c'est super
donc,
rapide. C'est super rapide en 300 ans.
Ah bah c'est sur quoi super rapide?
Ça veut dire 5700 années,
On a fait du chemin,
on a ramé,
oui.
Alors.
Bien sûr, on a fait du chemin.
Mais attends, mais même d'un point de vue...
Mais c'est comme je t'expliquais, c'est les préparatifs. Aujourd'hui, maintenant, on est dans les derniers préparatifs avant. Ça veut dire que ça va très vite, maintenant. Les plus gros préparatifs ont été faits avant. Mais c'est important pour nous d'étudier le sod. Alors maintenant, ce que le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, il disait, oui, mais le sod, finalement, qu'est-ce qu'on comprend du sod? On comprend pas grand-chose. On croit qu'on comprend. On comprend un petit peu. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas de comprendre. C'est au moins d'y être passé une fois. Il faut être passé au moins une fois. Parce que si ma neshama, y a une neshama des 600 000 neshamot qui n'est pas passée par une mitzvah, même sur le sod, ma chère ne peut pas venir.
Mais toutes les mitzvahs sur le sod?
Toutes les mitzvahs sur le sod, ouais. Toutes les mitzvahs.
En fait, il faut plus d'un...
Mais voilà, ça fait un bout de temps qu'on est dedans.
Non, mais tout c'est ça,
oui.
Tout ça, c'est un décret de Bereshit ou c'est un décret d'après?
C'est un décret de Bereshit. Oui.
On n'a jamais autant.
Donc ça veut dire
ça veut dire que.
C'est quoi le but ultime de la création?
Le but ultime de la création, c'est que avant d'arriver à Mashiach, avant de rentrer en salle, il faut être prêt. D'accord? Il faut avoir le nœud papillon, il faut avoir la veste, il faut avoir le pantalon, il faut avoir les belles chaussures, il faut être prêt. D'accord? Donc en vérité, on s'est préparé depuis, ça fait longtemps qu'on s'est préparé. Et là maintenant, on est en train de faire les dernières touches de make-up.
C'est que l'introduction là, ce que l'on vit, c'est que l'introduction.
C'est pas l'introduction, on est en train de s'habiller là.
On est dans les coulisses.
Dans la pièce de théâtre qu'on est en train de vivre. Ça, on est que dans la première
ligne. On n'est pas dans la pièce de théâtre là. Là, on est en train de s'habiller. Là, c'est les derniers coups, là. Les derniers coups, t'as le maquilleur qui vient, qui te met un petit coup de blush par-ci par-là.
C'est finalement
la vraie vie, c'est après. Évidemment.
C'est bon, on a de la chance.
Olam Hacheker et Olam.
Alors, on continue. Donc, aider les barères, kol abirurin et nogotlem, mikol arashpechet, mikol arashpechet, shikomat adam shlema. Donc en vérité, il dit maintenant, quelle est la raison, que c'était pour répondre à ta question, Michael, quel est le but de tout ça? On dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, a créé le monde, il y a eu 288 étincelles de Kedusha, Resh Pechet, exactement, 288 étincelles de Kedusha, qui ont été dispersées dans le monde.
Ah, c'est tout?
288, mais attendez, c'est énorme.
Donc, 202.
D'accord? Alors, maintenant tu comptes, combien j'ai dit 288?
Oui.
En Égypte, on était combien d'années en exil? D'accord. Redou. D'accord. Redou. Redou. La guimetrée de Redou. Resh Dalet Vav. 204, 6. Ça fait combien?
210.
On dit que pourquoi en Égypte on est resté 210 ans? Parce que en Égypte, c'est le Béné Israël a récupéré 210 étincelles. C'est-à-dire que là, nous maintenant.
68.
Il nous restait que 68.
Non.
78. Non, attends. J'ai dit 288. Donc il nous reste 78. Il nous restait 78. Comment on récupère ce qui reste? On récupère par les mitzvot. Pour récupérer ces étincelles-là, il faut passer par toutes les mitzvot, pensée, parole, action. C'est-à-dire pensée, c'est-à-dire l'étude, parole, en parler, l'action, c'est les faire. Donc probablement l'action, ça a déjà été fait. La parole, ça a probablement été fait. Ce qui nous manque maintenant, c'est la pensée. Dans la pensée, ce qui nous manque probablement maintenant, c'est l'aspect sod.
Hein, on aurait dû rester 70 ans de plus en Égypte.
Attends, on est en train de...
Non, on arrive à la fin.
La Shoah, on
n'a La Shoah?
Probablement, c'est l'aspect sod. Oui, ensuite.
Quand je dis en Égypte, c'est pas les gens qui sont morts, c'est les gens qui ont travaillé. Parce que quand on meurt, c'est une épreuve et c'est tout.
Quand tu fais la parole, automatiquement,
c'est. Je dirais même que quand on meurt, ça veut dire que Dieu pense que la mission de ces personnes-là est terminée.
Ça vous est rappelé. Quand tu fais la parole, la mise de la pensée, tu la fais aussi.
Pas forcément.
Non.
C'est ce qu'on expliquait. C'est pour ça qu'on a eu tout le cours, qu'on a expliqué que je peux accomplir la mitzvah dans le côté pratique. Sans me focaliser sur le concept.
Oui, mais t'as pas la parole. J'ai une connerie. Oui, mais t'as pas fait la mitzvah de la parole.
Je vais te donner un exemple. Par exemple, avant de manger, je te reprends l'exemple tout à l'heure. Avant de manger ce mini sandwich, je vais faire une deracha et je vais le manger.
Mini grand.
D'accord? Est-ce que j'ai fait l'action ici? Oui, je l'ai mangé. Est-ce que j'ai fait la parole? Oui, j'ai dit la bracha. Est-ce que j'ai eu la pensée? Pas forcément. Est-ce que j'ai réfléchi à ma bracha? Pas forcément. Est-ce que j'ai réfléchi que quand j'ai une bracha... Non, non, écoute-moi bien. Est-ce que j'ai réfléchi que quand je suis en train de faire la bracha, je suis en train d'être reconnaissant à Dieu et qu'il faut s'habituer à être reconnaissant? Pas forcément. Eh bien, plus on avance vers Mashiach et plus il faut s'efforcer à comprendre ce qu'il y a derrière la mitzvah. Le concept de la mitzvah.
Voilà, faut faire un peu.
D'accord.
Tu parlais bien tout ça.
Oui. Oui.
Le Rav Chaim Dinovitch, il a parlé des Netzot qui sont partis chez.
Chez Esav.
Chez Esav et chez Ishmael.
Oui.
Tu n'as pas parlé de ça.
Non, je parle maintenant parce que là on parle pour nous.
Parce que là tu donnes juste un mode d'emploi pour récupérer.
Oui.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de récupérer. Et pour que ma chérie vienne, il faudrait aussi récupérer.
Il faut que toutes les étincelles qui ont été perdues chez les nations soient récupérées. Mais en Kabbalah, c'est expliqué. Que techniquement, on voit qu'il y a beaucoup plus de convertis qui viennent des chrétiens, qui viennent des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup plus, que Esav détenait beaucoup plus d'énergie. Que Esav, c'est le père des chrétiens. Il détenait beaucoup plus d'énergie que Ishmael. Et donc, comme il détenait beaucoup plus d'énergie parce qu'il lui a donné des brachot, donc concrètement, ces étincelles-là, c'est-à-dire, il y a une énergie qui est chez lui. Cette énergie-là, elle est passée dans les gènes de ses enfants. Ouais. Ses enfants, c'est des chrétiens maintenant. Donc, il faut récupérer cette énergie-là. Tous les grands convertis qu'on a eus, comme Rabbi Meir, Rabbi Akiva, d'accord, Onkelos, comme aujourd'hui encore, tous les convertis qu'il y a, c'est la récupération de ces étincelles pour les ramener vers le Ham Israël. Et tout ça, c'est dans le but du projet de récupérer toutes ces étincelles. Et une fois que Dieu aura estimé que toutes ces étincelles ont été récupérées, ma chère pourra arriver.
Comme
bien sûr. Déjà, on va s'occuper de nous, après on s'occupera des autres.
L'approche qu'il y a par rapport aux gens qui veulent se convertir, faut pas les jeter.
Ah, ça, c'est il faut être sûr qu'ils veulent se convertir.
Il faut être sûr que ce sont des gens sincères.
Moi, j'ai rarement vu des vrais convertis, mais bon, enfin. J'ai rarement vu des convertis qui se convertissent pas par intérêt. Très rare. Il y en a, mais c'est rare. Très rare.
Très proche, moi.
Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, j'ai dit que c'est rare. En général, il y a toujours un intérêt.
Mais
dit, très rare qu'il y ait un intérêt.
Une personne qui s'est convertie, est-ce que dans ses vies antérieures aussi, elle a fait les autres mitzvot ou pas?
Est-ce que?
Une personne qui s'est convertie.
Oui.
Ça peut pas être ton cousin Germain si c'est converti.
Non, c'est pas mon
cousin. Une personne qui s'est convertie.
Est-ce que dans le passé, elle a fait les mitzvot, l'action, comme tu as dit, par la parole?
Bien sûr, alors une personne qui s'est convertie. Je vais répondre à la question pour un converti. Quand une personne. D'accord? En bataille. Quand une personne se convertit, on va lui greffer une neshama. Dieu va lui donner une identité. Il va lui donner plusieurs particules, bien sûr.
C'est une échava qui revient.
Justement. Donc ça veut dire qu'on va lui, par exemple, quand une personne va se convertir.
Déjà, parce qu'on a dit qu'elle revient.
Bien sûr, parce que toutes les échamotes existent déjà. On va lui greffer des particules d'une échamote. Mais je voudrais quand même juste dire quelque chose. Quand j'ai dit qu'il y a rarement des convertis qui sont pas par intérêt, c'est bien sûr, j'ai pas en général des gens qui se convertissent parce qu'ils veulent se marier avec une fille juive.
Oui,
dans le cas d'un mariage. Maintenant, quand c'est des enfants, ce qui arrive plus souvent, et je pense, des informations que j'ai, le Beit Din est beaucoup plus permissif sur ça. C'est quand c'est des enfants d'un des parents qui est juif, d'accord, donc du père qui est juif, par exemple. Là, ils sont beaucoup permissifs parce que là, on sait qu'il y a une volonté sincère de l'enfant qui veut pas être entre les deux et qui veut décider d'être juif. C'est une très bonne chose, d'accord. Mais quand c'est quelqu'un qui se convertit, un jeune homme qui se convertit comme ça, alors que ses parents n'étaient pas juifs, d'accord, le Beit Din, il les rend fous parce qu'en général, c'est très rare les cas dans lesquels il n'y a pas d'intérêt.
Mais c'était dur, hein. C'était très dur pour lui.
C'est normal.
D'ailleurs, son frère, il a du mal.
Parce qu'on veut être sûr que c'est il n'y a pas d'intérêt derrière. Ok. Aval et Atid Lavo, mais quand Mashiach arrivera, dans les mots ici. Kshiyushlam abirur, quand on aura terminé de récupérer les étincelles de Kedusha, yé esek à Torah, biprinat asetov bilevad, quand Mashiach arrivera, on n'aura plus besoin d'étudier les misettes négatives. Pourquoi? Parce que quand Mashiach arrivera, on n'ira chercher que le positif, il n'y aura que du positif, on n'aura plus besoin de construire, c'est fini, la construction sera déjà faite, on sera déjà rentré en salle. Ça veut dire que là maintenant, on est en train de se préparer, alors il faut astiquer, il faut préparer, il faut nettoyer, mais une fois que tu rentres en salle, c'est fini. Il n'y a plus, on n'astique plus. D'accord. Quand tu vas rentrer en salle, si tu vas voir encore la gueule, attention, c'est fini. On joue après. C'est fini. Ça veut dire que là maintenant, on est encore en train d'étudier les misotes positives, les misotes négatives, ce qui est permis, ce qui est interdit. Parce que là, on est en train de préparer. Mais une fois que ma chère arrive, c'est fini. Il n'y a plus de nettoyage. Tu es comme tu es et c'est fini. C'est à dire que même si moi, je dis, mais attends, je vais nettoyer, tu dis, c'est trop tard. Maintenant, on joue. Il n'y a plus le temps de nettoyer.
Ça veut dire quoi, Beyrouth?
Le quoi?
Birour. Birour, ça veut dire le raffinement. La récupération de cette étincelle-là. Donc, les alot anaran mala mala densov, et gam, le taase, bécherchen et malachen gvouk de shot, l'amtikan, bachasadim, baramar, mizet taase, le kalan yachad, valken, a tora kula nitri, biklala wifrata, che gam prate à la chod, et chassel le taase, en hen anafim maklalot, viyesh le kulam, cherech le mala be, gvoura de gusha, que moi chassel le taase à tsmal, chen le mala, biprinat à dam, mchaïverim, de kelim des erandim. Bon, là, on a des termes de Kabbalah, je vous dis juste rapidement ce qu'il dit ici. Ce qu'il explique ici, c'est une notion qu'on va pas trop développer. S'il dit qu'en vérité, la Torah est éternelle. Et que quand Mashiach arrivera, on va continuer à étudier même les mitzvot négatives, mais pas dans le sens de, on va pas chercher le concept négatif. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étudie une mitzvah négative, par exemple, la mitzvah qui te dit qu'il faut pas manger trop de viande et qu'il faut pas boire trop de vin. Même si aujourd'hui, le côté pratique, on l'a plus, mais le concept, on l'a. C'est qu'on te dit, attention, ne te donne pas trop au plaisir de ce monde-ci. Mais quand Mashiach va venir, il y aura plus le côté négatif. Puisqu'il n'y aura plus le côté négatif, alors là, dans ce cas-là, on va plus étudier dans notre tête le côté négatif de la chose. Comment, c'est-à-dire, on va plus appliquer dans ma personne le côté négatif de dire, je ne dois pas trop manger de viande, par exemple, je ne dois pas trop boire de vin. Non, quand ma chère arrivera, là, ce sera de la pure étude, marche à base, de la pure étude, sans chercher comment j'applique ça en moi. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est quoi ? Voilà ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui. C'est que plus on avancera vers ma chère, et plus on recherchera le concept des mitzvot. On va, c'est pas qu'on arrêtera de faire la pratique, mais nos enfants nous demanderont, quand on leur demandera de faire la pratique, ils nous demanderont de comprendre le sens des choses. Et d'ailleurs, je voudrais terminer avec ce dernier point-là.
Justement, pourquoi ?
D'accord ? Récemment, la semaine dernière, on a eu le Fabringen. On a eu le Fabringen du Rav Lapkowski autour du, c'était jeudi soir, il y a plusieurs qui étaient là, autour du vin Cheshvan. Et le vin Cheshvan, c'était le jour anniversaire du Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab, vous connaissez cette histoire, que le Rabbi Rachab, à l'âge de 5 ans, le Rav l'a raconté, qu'à l'âge de 5 ans, il est venu voir son père, son grand-père, il a pris une version, et il lui a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham Avinu, et à moi il ne s'est pas dévoilé. Et de là, le Rabbi a fait un enseignement. Il a dit que si on nous a raconté cette histoire à nous, que nous qui ne sommes ni Rabbi ni fils de Rabbi, c'est-à-dire qu'il y a un message pour nous. Et dit le Rabbi, c'est quoi le message pour nous ? C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'éduquer nos enfants de manière à ce que quand tu lui expliques, tu lui racontes une histoire comme l'histoire d'Avraham Avinu, eh ben, il a une telle sincérité qu'il va te poser la question, il va dire pourquoi lui et pas moi ? Ça, il n'y avait pas, c'était pas comme ça avant. Avant, on racontait l'histoire, on te disait Avraham Avinu, t'es comme ça ? Oui. D'accord ? Fais comme ça ? Oui. D'accord ? Fais pas comme ça ? Non, on fera pas. Ça veut dire on acceptait. Eh ben, plus on avance dans le temps, et plus on va devenir comme ces petits enfants, comme le Rabbi Rachab, qui lui c'était un rabbi, mais on va devenir comme ça. Mmh. Quand tu me dis, tu me racontes, tu me dis, Avraham Avinu, il a eu le mérite que Dieu est apparu à lui, et ben l'enfant, il va poser la question, il va chercher le concept qu'il y a derrière, il va dire, pourquoi lui et pas moi ? Quel est le concept ? Pourquoi lui et pas moi ? Et ben plus on avancera dans le temps, et plus ça sera comme ça. Parce que on doit passer par le concept de toutes les mitzvot, et tant qu'on sera pas passé par le concept de toutes les mitzvot, Mashiach ne pourra pas venir.
Donc c'est ni de l'égoïsme, ni de la prétention.
Pas du tout. Au contraire.
Non, on
veut comprendre. On veut comprendre. L'enfant n'a pas dit. L'enfant n'a pas dit, je veux être comme Abraham. C'est pas un caprice qu'il a fait. Il veut comprendre. Il dit, je veux comprendre le concept. Je veux comprendre pourquoi lui et pas moi. Et c'est quelque chose de très positif, ça.
D'accord. Si ton fils il vient te voir et te dit ça, j'ai dit,
pourquoi pas ? C'est vrai. Il faut s'attendre au fait que, par exemple, un jour, notre fils nous posera la question et te dira, papa, pourquoi je peux pas marier avec une Goya ? Qu'est-ce que tu vas lui répondre ?
Moi, j'ai pas le iPhone 6, il vient de
parce que tu n'as pas le droit de casser la
chaîne. 5S, attention. Alors. 5, alors. Alors. Il dit, pourquoi casser la chaîne ? Il dit, voilà, la chaîne, c'est. Voilà, avec elle, on va faire la chaîne.
Non,
ton argument ne fera pas le poids.
C'est pas une raison. Voilà, c'est l'argument, à mon avis, qui ne
fera pas le poids.
Se limitera pas à ça.
Il a posé la question, qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Toi, tu t'es suivi de ça. Toi, t'as pas besoin de plus que ça. Mais lui, il aura besoin de plus. Il aura besoin de comprendre quelle est la particularité du Ham Israël et que pourquoi le Ham Israël, il doit être toujours détaché des autres, etc. Ça veut dire, il devra aller plus profond. Plus on avancera dans le temps, on n'aura pas le choix.
Les détails, c'est pour les goyes, tout le monde le sait.